RFI, 22h à Paris, 21h en temps universel, 16h à Washington.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Aux États-Unis, Elon Musk avait pris le contrôle du système de paiement du Trésor américain dans le cadre de sa commission à l'efficacité gouvernementale. Un juge fédéral vient de le bloquer, temporairement, nous dira Loubna Anaki. Trois otages israéliens ont été libérés ce samedi par le Hamas contre 183 prisonniers palestiniens. Les deux camps s'accusent mutuellement de mauvais traitements envers les otages et les prisonniers. En France, Nicolas Sarkozy annonce qu'il a décidé de mettre entre parenthèses ses activités publiques d'ancien président et de renoncer à toute expression médiatique. Hier, il s'était vu poser un bracelet électronique après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Et puis réunion aujourd'hui de figures de la droite nationaliste européenne sous le mot d'ordre quasi-trumpien « Make Europe Great Again », rendre sa grandeur à l'Europe. C'était à Madrid et à la tribune, la française Marine Le Pen s'est démarquée de ses alliés ultra-conservateurs, nous dira Raphaël Delvolvé. Aux États-Unis, les efforts de Donald Trump pour réduire les dépenses publiques et tailler dans le personnel fédéral continuent de se heurter à la justice. Dernière décision en date, un juge bloque l'accès d'Elon Musk au système de paiement du Trésor américain. À New York, la correspondance de Loubna Anaki.
Une note interne au Trésor américain révélée par les médias parle de la plus grande menace interne à laquelle le service fiscal a été confronté. Elon Musk et Doge, son département de l'efficacité gouvernementale créé par Donald Trump, avaient pris le contrôle du système de paiement du Trésor il y a quelques jours, provoquant une tempête de réactions. Il faut savoir que ce système gère les fonds fédéraux, y compris les salaires des fonctionnaires, l'argent destiné aux fonds de retraite ou encore les fonds du programme d'assurance maladie. Pour Elon Musk, c'est, je cite, « la seule façon de mettre fin à la fraude et au gaspillage de l'argent du contribuable ». Mais pour protester contre cette prise de contrôle jugée dangereuse, les procureurs généraux d'une vingtaine d'États ont saisi le juge qui a donc décidé d'interdire l'accès aux données du Trésor américain aux membres de Doge et toute autre agence extérieure. Une décision temporaire jusqu'à une nouvelle audience prévue le 14 février. Depuis quelques jours, les décisions de justice se sont multipliées pour suspendre ou bloquer les efforts de Donald Trump et son administration pour réduire le nombre de fonctionnaires ou contrôler le budget des agences. Loubna Anaki, New York, RFI.
Ce samedi, trois otages israéliens ont été libérés par le Hamas contre 183 prisonniers palestiniens. Des prisonniers accueillis par une foule en liesse à Ramallah, en Cisjordanie, comme à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Place des otages à Tel Aviv, on a célébré la libération des trois otages. Mais leurs familles, comme les dirigeants israéliens, dénoncent leur état de santé. Le Hamas, de son côté, dénonce ce qu'il a qualifié de meurtre à petit feu des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, après l'hospitalisation de 7 des prisonniers qui viennent d'être libérés. À noter aussi que ce soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce l'envoi d'une délégation à Doha au Qatar pour des négociations sur la suite de la trêve. En Syrie, cela fait 2 mois que Bachar al-Assad s'est enfui et que son régime est tombé. Ses portraits avaient tout de suite été arrachés et le drapeau national remplacé par celui de la révolution. Mais si les nouvelles couleurs de la Syrie sont aujourd'hui très présentes, celles de l'ancien régime n'ont pas encore totalement disparu. Le reportage à Damas de nos envoyés spéciaux Bertrand Eclair et Guilhem Delteil avec Nour Salam.
C'est l'entrée nord de Damas sur la route principale. Au milieu d'un échangeur, une imposante mosaïque avec en son centre ce qui fut un grand portrait de Hafez al-Assad. Mais le visage de l'ancien président a été recouvert d'une peinture représentant le nouveau drapeau syrien. Sur le bord de la route, des policiers surveillent la circulation. Des hommes venus d'Idlib arrivés peu après la chute d'Assad. Et le drapeau était déjà là, se souvient cet officier.
Oui, il était déjà là. Après la chute du régime, les gens ont fait ça tout de suite. C'était une volonté du peuple.
Des murs, des bâtiments, jusqu'au pare-brise des voitures, le nouveau drapeau s'exhibe. Mais dans les villes, les rideaux tirés de certains commerces montrent encore les anciennes couleurs du pays. Elles étaient omniprésentes, explique Aïd Elzouk, un boulanger.
L'ancien drapeau, tout le monde était obligé de l'avoir, même le magasin le plus cher. Si une personne n'affichait pas le drapeau, elle s'exposait à une punition ou un interrogatoire.
Et si elle subsiste aujourd'hui encore, ce n'est pas par adhésion à l'ancien régime, assure-t-il.
Je n'ai pas d'argent. Avant, j'étais obligé d'avoir l'argent pour le drapeau. Maintenant, non. Et même si j'avais l'argent, il y aurait mieux à faire.
Bertrand Eclair, Nour Salam, Guilhem Delteil, Damas, RFI.
RFI 22h05 à Madrid. Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe. C'est sous ce mot d'ordre, inspiré du Make America Great Again de Donald Trump, qu'étaient réunis aujourd'hui à Madrid des figures de la droite nationaliste européenne, invitées par le parti espagnol Vox, l'Hongrois Viktor Orban, l'Italien Matteo Salvini ou encore le Néerlandais Geert Wilders. Mais à la tribune, la Française Marine Le Pen s'est démarquée de ses alliés ultra-conservateurs, Raphaël Del Volvé.
Make Europe great again.
We make Europe great again.
Hacer Europa grande otra vez.
La plupart ont repris le slogan, mais pas elle. Depuis novembre dernier, Marine Le Pen affiche un enthousiasme mesuré à l'élection de Donald Trump.
Le résultat des élections américaines doit sonner le réveil du vieux continent. Il ne faut pas l'interpréter comme un appel à un alignement.
Prudence notable également dans les thèmes et le vocabulaire à la tribune, quand le Hongrois Orban, le Hollandais Wilders ou l'Italien Salvini défendent des valeurs sociétales conservatrices, pourfendent le wokisme et invoquent la Reconquista pour contrer l'immigration. Marine Le Pen, elle, se limite à une charge contre l'Union européenne.
Ce n'est pas l'Europe qui a généré la puissance, mais les nations qui la composent. Et non une structure technocratique froide et castatrice.
Certes, elle accuse Bruxelles et sa politique migratoire, mais s'épanche davantage sur le Green Deal, ce pacte vert qui, selon elle, est la marque de l'impuissance européenne. Marine Le Pen donne sa vision du monde.
Aujourd'hui est en train de s'imposer un clivage. La puissance contre la décroissance.
Après 8 mois d'existence des patriotes européens, Marine Le Pen semble avoir décoré sa chambre à sa manière, dans ce qui ressemble, après ce week-end espagnol, plus à une grande colocation qu'une coalition. Raphaël Del Volvé, Madrid, RFI.
Pendant ce temps, 250 000 personnes selon la police, 320 000 selon les organisateurs, manifestaient contre l'extrême droite à Munich en Allemagne, à 2 semaines des législatives. C'est nettement plus qu'à Berlin dimanche dernier. Ce mouvement de protestation a été déclenché par le début de rapprochement avec le parti d'extrême droite AfD du candidat conservateur de la CDU, favori des sondages pour la chancellerie. En Allemagne toujours, le chancelier Olaf Scholz a critiqué les demandes du président américain Donald Trump d'une garantie sur les terres rares ukrainiennes en échange de l'aide militaire américaine. L'Ukraine est attaquée et nous l'aidons sans que l'on demande d'être payé en retour. Cela devrait être la position de tous, a insisté le chancelier allemand. Depuis ce matin, les pays baltes ne dépendent plus de la Russie pour leur approvisionnement électrique. Ils étaient reliés au réseau russe depuis l'époque de l'URSS. Et maintenant, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie sont raccordés au réseau européen. Le mouvement avait été lancé avant la guerre en Ukraine. Objectif, éviter que la Russie n'utilise l'approvisionnement électrique comme une arme. En France, Nicolas Sarkozy annonce sur le réseau social X qu'il a décidé de mettre entre parenthèses ses activités publiques d'ancien président et de renoncer à toute expression médiatique. Hier, un bracelet électronique avait été posé sur l'ex-chef de l'État après sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. À partir de ce lundi et pour 2 jours, Paris accueille le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, l'occasion de réfléchir aux questions que posent les IA génératives dans le domaine de la création culturelle. Le monde de la musique et en particulier les artistes sont en première ligne pour dénoncer leurs dangers. Olivier Roger.
Ce que vous entendez, c'est un morceau créé en quelques clics par la rédaction de RFI sur une application d'intelligence artificielle gratuite. Certes, il ne va pas révolutionner l'art, mais cet instru, aussi médiocre soit-il, met en lumière une tendance croissante dans l'industrie musicale, les faux morceaux générés par l'IA. Il y en a des dizaines de milliers qui se créent chaque jour et les plateformes de diffusion musicale sont confrontées à des fraudes massives. Aurélien Hérault, chef de l'innovation chez Deezer, plateforme musicale franco-américaine.
Je pense que la crainte des créateurs se situent sur ce secteur. Est-ce que l'AI va industrialiser la fraude, en fait? Est-ce que le fait qu'on puisse, en quelques clics, créer des morceaux, et puis avec un système de bot, générer des écoutes, est-ce que ça va les capturer de la valeur? Et c'est pour ça que nous, d'un côté, il faut qu'on soit capable d'identifier le contenu, et de l'autre, mettre en place des systèmes anti-fraude aussi, qui vont analyser les types d'écoutes.
Fausse musique, faux auditeurs, mais vrais revenus. Deezer a décidé de combattre ces dérives en mettant en place des outils informatiques, mais aussi en augmentant la part versée aux musiciens. Le but est de changer le partage de la valeur, afin qu'il ne soit plus centré sur le marché, mais d'abord sur les artistes.
Olivier Roger, en rugby, désillusion pour le 15 de France, battu 26-25 en Angleterre. Pour cette 2e journée du tournoi des 6 nations, à noter aussi que le Pays de Galles a concédé une 14e défaite de suite face à l'Italie au stade olympique de Rome. Le score 22-15. À suivre demain l'Écosse qui reçoit l'Irlande. C'est à 14h, temps universel. En attendant, sur RFI, il est 22h10 à Paris.